Tamani, voici nos informations en France.
Lundi 6 février 2021, mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres de ce journal. Après l'attaque meurtrière contre des forains de Sango, les populations de Bandiangara ont entamé ce matin une désobéissance civile dans toute la région jusqu'à nouvel ordre. Des tractations entre le gouverneur et les autorités locales sont en cours pour trouver une solution. Les chefs d'État du G5 Sahel se sont penchés hier à Nouakchott sur les défis auxquels l'éducation fait face dans le Sahel. À l'issue de cette rencontre, ils ont adopté la déclaration de Nouakchott sur l'éducation. Le dossier de la rédaction s'intéresse au repas familial. Autrefois, il était de coutume de voir tous les membres d'une même famille se réunir autour d'un seul plat pour manger. De nos jours, cette pratique a tendance à disparaître. Qu'est-ce qui explique cette situation? La réponse dans ce journal. Je suis Hamsitou Touré à la présentation, à la mise en onde, Salim Djouara. Les populations de Bandiangara ont déclenché ce matin une désobéissance civile dans toute la région. Ce mouvement intervient suite à l'attaque contre des forains de Sango vendredi dernier. Cette attaque a coûté la vie à 31 civils, indique un communiqué officiel. Les manifestants demandent la sécurisation des personnes et de leurs biens. Au même moment, le gouverneur de la région a rencontré les autorités locales pour trouver une solution à cette situation. Le avec Ousmane Yalibouli.
Dans la ville de Bandiangara, tous les services étatiques et non étatiques étaient fermés ce matin, selon des témoignages sur place. Ces mêmes sources indiquent que seuls les services de santé, du commerce et du transport fonctionnent normalement. Elle ajoute que très peu d'habitants étaient visibles au marché. Des boutiques et magasins étaient aussi fermés, même si ces secteurs ne sont pas concernés par cette mesure. Le gouverneur de la région de Bandiangara, Meissa Fane, accompagné du sous-préfet de la localité et d'autres personnalités, ont rencontré ces matin, les autorités de la localité pour la réouverture des services. Ces responsables locaux ont fait savoir au gouverneur qu'ils sont derrière le jeûne et demandent à l'État de sécuriser la région. Dans un communiqué, le gouverneur de la région de Mopti a invité les préfets des cercles de Mopti, Djenné, Tenenku et Yuaru, de prendre toutes les dispositions idoines. L'objectif est de prévenir toute escalade de violence intercommunautaire dans la région de Mopti.
Sur le même sujet, c'est une manière pour nous de montrer notre mécontentement face à cette situation d'insécurité et nous comptons aller jusqu'au bout, a déclaré le deuxième adjoint au maire de Bandiangara. Moussa Tembeli regrette que toutes les actions entreprises jusque-là soient inefficaces. Moussa Tembeli, deuxième adjoint au maire de Bandiangara, est au micro de Mamoudou Bokoum, notre correspondant à Mopti.
C'est notre consternation totale qui nous a poussé à cette désobéissance civile parce qu'on s'est dit trop, c'est trop. Parce que nous avons terminé toutes les cartouches, les voiseries coups que nous avons à faire par-ci, par-là, commencer par des marches, faire encore des pétitions, faire des écrits. Vraiment, nous sommes fatigués, nous avons tout fait, rien n'a changé. Voilà ce qui nous a poussé vraiment à aller à l'idée d'une désobéissance civile. Nous avons demandé à ce qu'on ferme tous les édifices publics et parapublics, même les ONG de fermer, pour montrer notre mécontentement pour que vraiment l'État nous écoute. Les services qui ne sont pas concernés vraiment par cette désobéissance civile, il y a d'abord la santé, le commerce, également le transport.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux, à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Le président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi Oumar Mariko, a été placé en garde à vue au camp 1 de la gendarmerie du district de Bamako ce lundi 6 décembre 2021. L'information est confirmée par le secrétaire général du parti. Il a été convoqué ce matin au camp 1 de la gendarmerie suite à l'affaire des vocaux du premier ministre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je l'annonçais dans les titres, le sommet sur l'éducation au Sahel a pris fin hier dimanche à Nouakchott en Mauritanie. À l'issue de cette rencontre, les chefs d'État du G5 Sahel ont adopté la déclaration de Nouakchott sur l'éducation. Il s'agit notamment de réduire la pauvreté des apprentissages, promouvoir une participation accrue des filles à l'enseignement secondaire et renforcer les compétences de base des jeunes adultes déscolarisés. La Banque mondiale s'engage aussi à mobiliser les ressources pour appuyer l'éducation dans le Sahel. Arkia Touré.
Le premier ministre Gelco Kalamaïga a pris part aux travaux de ce sommet sur l'éducation qui ont duré une journée. Depuis 8 ans, l'école malienne n'existe plus dans plusieurs régions du pays du fait de l'insécurité, a rappelé le premier ministre. Le contexte sécuritaire difficile a entraîné la fermeture ou la destruction de près de 1600 écoles dans le nord et le centre du pays, a-t-il précisé en marge du dit sommet. Face à ces défis, les dirigeants du Sahel à Nouakchott ont pris quelques résolutions en faveur de l'école dans ces zones et se sont engagés à prioriser les actions et financements autour d'objectifs chiffrés pour réduire la pauvreté des apprentissages, promouvoir une participation accrue des filles à l'enseignement secondaire et renforcer les compétences de base et l'alphabétisation des jeunes adultes qui ont quitté l'école. Ce sommet a été organisé en collaboration avec la Banque mondiale pour l'Afrique de l'OSE centrale. Son vice-président Ousmane Diagana a déclaré que l'école est en danger au Sahel et avec l'avenir du Sahel. La Banque mondiale est prête à accompagner les pays du Sahel à relever les défis du secteur de l'éducation, a-t-il dit.
La deuxième assemblée générale de l'Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel a débuté ce matin à Bamako. Selon ses responsables, cette rencontre vise à renouveler le bureau et montrer la place des élus locaux dans la prise de décision de l'État. Des représentants des régions et cercles prennent part à cette rencontre de 2 jours. Youssouf Diakité, secrétaire exécutif de l'Alliance des associations de pouvoirs locaux des pays du G5 Sahel, est au micro de Aboubakrine Ag Mohamedine Yatara.
Il y a des thématiques d'actualité qui portent sur le rôle et les responsabilités des collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des crises, mais également comment nous positionner sur les agendas internationaux comme les ODD, les questions environnementales et également sur les questions migratoires. Donc c'est là en réalité l'objectif global de cette session qui sera également marqué par une relecture de nos statuts règlement intérieur et également le renouvellement du bureau. Je pense que les élus qui sont là, ils sont assez conscients de leur rôle et responsabilité en matière de gestion de la crise, mais également comment mieux se positionner pour accompagner les populations qui sont chaque jour fragilisées à travers tout ce qui se passe. Donc il ne faut pas tout attendre de l'État, il faut aller souvent vers l'État, vers les partenaires techniques et financiers.
Grogne sociale, les agents de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence ont débuté ce matin une grève illimitée. Les responsables du syndicat de la DGCC exigent la relecture des textes régissant le secteur, l'accélération de la construction de l'hôtel du commerce, entre autres. Ceux-ci disent rester ouverts aux négociations pour que le commerce reprenne. Omar Koulibaly, secrétaire aux revendications de la section syndicale du commerce, et j'en téléphone par Khalifa Goïta.
Le point phare même, c'est le transfert du programme de vérification des importations. Ce programme sert à inspecter les marchandises avant embarquement à destination du Mali. Il a été demandé à chaque pays membre de l'Organisation mondiale du commerce de supprimer les aspects liés au contrôle, à l'évaluation de la valeur en douane et le classement tarifaire. On considère que le contrôle douanier effectué à l'extérieur du pays et à l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier, ça va être un double contrôle. Ça ne peut qu'enfreindre à la libre circulation des biens et des marchandises. Donc c'est pourquoi on a demandé à ce que le programme soit transféré au niveau du commerce.
Place maintenant à notre dossier du jour. Au Mali, autrefois, tous les membres d'une même famille se réunissaient autour d'un seul plat pour manger. L'objectif de cette tradition était de renforcer les liens parentaux, contribuer au maintien de la cohésion sociale, expliquent des traditionnalistes. De nos jours, cette tradition a tendance à disparaître selon des observateurs et cela a beaucoup d'impact sur les relations, regrette-t-il. Notre reporter Ali Mayatara s'est intéressé à la question. Suivant donc son reportage.
Il est 12h dans la famille Doumbia, quelque part à Bamako, et c'est l'heure du repas. Le plat commun est servi et tous les membres de la famille sont réunis autour. Selon Makan Doumbia, chef de famille, manger ensemble est une tradition qui permet de rassembler toute la famille.
Chez nous, on continue de respecter la tradition. On prend la bouillie, même à 10, dans le même récipient, chacun avec sa louche dans l'harmonie.
Dans la famille Sissogo, la pratique est différente. Ici, on estime que cette culture ne peut plus être d'actualité. De nos nos jours à cause de plusieurs paramètres, explique Oumou Sissoko, ménagère.
Dans ma famille, parce qu'on ne descend pas du travail à la même heure. Quand mon mari rentre, il se sert à manger. Pareil pour moi et les enfants aussi, même pour l'aide ménagère. Je trouve tout simplement que c'est hygiénique. Aussi, c'est pour éviter certaines maladies.
Selon des traditionnalistes, le repas collectif est un savoir-vivre et une belle initiation, surtout pour les enfants. Ils estiment que c'est un acte qui permet toujours de garder les liens familiaux. Bourama Soumano, traditionnaliste.
Oui, les gens mangeaient à 10 voire à 15 dans la même tasse avant. Cela renforçait l'amour et l'empathie. Même si l'autre était dans des conditions difficiles, tu ne pouvais jamais le rejeter. Dans les villages, les traditions continuent d'être perpétuées, mais dans les grandes villes, elles n'existent presque plus.
Rappelons que des spécialistes de santé estiment qu'en ce temps de COVID-19, manger dans le même plat peut être source de contamination, surtout si l'un des membres de la famille est atteint du virus.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
À présent, un tour en région. La semaine de la sécurité routière a été lancée ce matin à Sikasso. Le thème de cette édition est la sécurité du piéton dans la circulation. Durant la semaine, la sensibilisation sur la sécurité routière sera accentuée au niveau des endroits où les accidents sont beaucoup plus fréquents. La campagne doit prendre fin le 12 décembre prochain. Nous recevons Mariam Maïga pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam Maïga, quel est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui?
Bonsoir Hamsatou Gogo Touré. Dans le Grand Dialogue de ce soir, nous allons débattre de la situation sécuritaire à Badjangara et de comment sécuriser cette partie du pays. Pour en parler, nos invités au nombre de 300, Boubacar Bekoum, analyste politique, Adamon Diongo du collectif des jeunes du pays Dogon, au téléphone, Docteur Baye Diakité, sociologue.
Merci Mariam, c'est la fin de ce journal. Restez à l'écoute dans un instant. La question A. Le mois de décembre est consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Les personnes atteintes de la maladie prennent tous les jours des médicaments. Une situation difficile qui demande du courage, témoignent certains d'entre eux. Quel est le quotidien de ces personnes? Comment surmontent-elles cette épreuve? Notre reporter Aïssata Diara est allé à la rencontre d'une personne porteuse du virus.
Cette personne qui a voulu garder l'anonymat prend des antirétroviraux depuis 2005. Lorsque j'ai découvert que j'étais séropositive, j'ai commencé le traitement. Pendant des années, je prenais 6 à 7 comprimés par jour, affirme notre interlocuteur.
Avant, on peut prendre 6 comprimés à 7 comprimés par jour. Bon, au début, c'était pas facile. Et le médicament que tu prends, ça a vie. Donc, tu dois t'habituer à ça. Il y a d'autres qui commencent à prendre le médicament une année, deux ans, trois ans. Ils disent que vraiment, ils en ont marre. Parce que moi-même, je suis dans une unité de prise en charge. On a des patients qui viennent nous remettre le médicament vraiment qu'ils ne supportent plus.
Aujourd'hui, elle salue les avancées constatées dans le traitement. D'une dizaine de comprimés, actuellement, elle prend un comprimé par jour.
Mais Dieu merci, aujourd'hui, grâce à l'implication des médecins et du gouvernement malien, je prends mon antirétrovirus chaque soir pour coucher un comprimé par jour. Je ne dis pas tout, mais presque tous les patients séropositifs prennent un comprimé par jour maintenant.
Cependant, l'abandon ou l'oubli des traitements donne plus d'espoir au virus de se répandre dans l'organisme, expliquent les médecins. Cet abandon arrive généralement quand les patients constatent qu'ils recouvrent la santé, ajoute-t-il. Al-Mustapha Maïga, chef de service département biologie médicale à l'hôpital Gabriel Touré.
Et donc, plus on prend le traitement, plus le virus ne pourra plus se multiplier dans l'organisme. Et c'est ce qui arrive souvent quand les gens se sentent mieux. Ils pensent qu'ils n'ont plus le VIH et ils vont arrêter de prendre les médicaments. Malheureusement, quand on arrête de prendre les médicaments, le virus il va ressortir de son cachot et il va recommencer à faire diminuer les cellules du système immunitaire et on va retomber malade. On va retomber très gravement malade, plus fort que dans les premiers cas.
Docteur Maïga invite les porteurs du virus au respect du calendrier médical, en attendant d'autres traitements plus efficaces dans les jours à venir. Selon lui, prendre des comprimés tous les jours reste la seule clé du succès contre la maladie.